Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Notre pays a réalisé un miracle médical, se réjouit le président Donald Trump. Les États-Unis viennent d'autoriser en urgence le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. Première injection dans moins de 24 heures, estime la Maison-Blanche.
Dans la bande de Gaza, les services de santé évoquent une situation hors de contrôle. Les nouveaux cas sont plus nombreux ces dernières semaines et un confinement total risque de fragiliser encore plus la situation économique. Reportage à suivre.
Nous reviendrons également sur les négociations difficiles sur l'accord Brexit. Avant d'aborder la lutte contre le réchauffement climatique, un sommet virtuel est prévu aujourd'hui. Dans la seconde partie des matins du samedi, Chloé, vous recevrez d'ailleurs Barbara Pompili.
Oui, la ministre de la Transition écologique est notre invitée. 5 ans après l'accord de Paris, nous parlerons avec elle aussi évidemment des suites législatives de la Convention citoyenne sur le climat.
De nombreux acteurs de la culture déplorent les annonces du gouvernement. Au moins 3 semaines de fermeture supplémentaire pour les cinémas, musées, salles de spectacle. Ceci afin de limiter la propagation du Covid-19, vous entendrez la colère de l'artiste Charles Berling. Le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 entame sa campagne de vaccination. Les États-Unis devraient distribuer dans quelques heures le vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech, efficace à 95%. La FDA, l'agence américaine du médicament, a donné son feu vert hier soir à une utilisation en urgence. Jamais elle ne l'avait accordé aussi rapidement à un nouveau vaccin, seulement 3 semaines après le dépôt par les entreprises de leur demande. Et Donald Trump s'en réjouit. À Washington, Grégory Phillips.
Lui qui, quelques heures plus tôt, menaçait de virer le patron de la FDA s'il n'autorisait pas avant vendredi soir le recours au vaccin mis au point par Pfizer, se félicite désormais. Dans une courte vidéo enregistrée à la Maison-Blanche, Donald Trump parle de miracle médical. La pandémie a débuté en Chine, elle s'achève ici et maintenant aux États-Unis, dit le président sortant. Près de 3 millions de doses de vaccins vont être immédiatement expédiées de l'usine Pfizer située dans le Michigan. Avec l'aide de l'armée, ces doses vont être distribuées dans chacun des 50 États américains, 6 grandes villes et 5 agences fédérales. Énorme opération logistique qui débute maintenant. Les personnels de santé, en première ligne face au virus, seront vaccinés en priorité, ainsi que les résidents des maisons de retraite. Donald Trump promet que les premières vaccinations auront lieu dans les 24 heures qui viennent.
Les États-Unis, qui deviennent officiellement le 6e pays au monde à valider l'utilisation de ce vaccin. Washington a aussi acheté hier 100 millions de doses supplémentaires d'un autre, celui de Moderna. Les campagnes de vaccination commencent alors que de nombreux territoires ont toujours du mal à limiter la propagation du Covid-19. Les contaminations sont de plus en plus fréquentes ces dernières semaines dans la bande de Gaza par exemple. Des responsables des services de santé parlent d'une situation hors de contrôle dans cette enclave sous blocus israélien. Mais un confinement total est difficilement envisageable à cause de la crise économique. Ce serait un coup dur supplémentaire. Près de 60% de la population est déjà au chômage. Le reportage d'Alice Froussard.
À Gaza, les autorités ont eu beau fermer les écoles et les mosquées, instaurer un couvre-feu tous les soirs et une fermeture totale les week-ends. La densité est telle que les gens continuent de s'entasser en journée dans les rues, les commerces, les marchés. Et ici, on craint davantage le fait de ne plus pouvoir travailler, explique Rami, un habitant de Gaza.
La majorité, c'est des gens qui travaillent le jour au jour. Ici, tu restes chez toi, ils te donnent rien. Si je peux pas faire à manger à mes enfants, c'est la mort. Donc c'est ça le vrai danger. On est dans une cage, tout le monde va être contaminé.
Il y a un manque de tests, de lits, de soins intensifs. Ayman Al-Alabi est chef des services médicaux du ministère gazaoui de la Santé.
Les institutions internationales, Israël et Ramallah, doivent assumer leurs responsabilités et fournir un approvisionnement adéquat à la bande de Gaza, car c'est une zone densément peuplée et le secteur de la santé est assiégé depuis 14 ans.
La principale crainte, c'est donc qu'une grande partie de la population soit contaminée par le virus, que la situation s'empire, explique Jenny Higgins, coordinateur du plaidoyer pour Médecins du Monde.
Rien que cette semaine, on a vu des tests arriver trop tard dans l'enclave. Il n'a pas été possible de tester la population pendant 24 heures. La crise du coronavirus illustre vraiment à quel point Gaza n'est pas équipé pour surmonter une catastrophe comme celle-ci.
Car sans aide extérieure, cela pourrait devenir une catastrophe humanitaire sans précédent.
Israël devrait démarrer la vaccination le 27 décembre, mais n'a pas indiqué s'il comptait fournir des vaccins en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. En attendant le vaccin, il reste les gestes barrières et le port du masque. À Francfort, en Allemagne, des manifestants, les Querdenker, vont se rassembler aujourd'hui. Ils dénoncent régulièrement les mesures sanitaires et le port du masque, justement. Ce rassemblement est interdit. Les autorités redoutent des débordements à cause de la radicalisation du mouvement. La correspondance en Allemagne de Nathalie Versieux.
Semaine après semaine, au rythme des manifestations, ce sont les mêmes images. Des groupes de jeunes hommes vêtus de noir, arborant les drapeaux du Reich et non masqués, se mêlent à la foule hétéroclite des coronas sceptiques. Ils côtoient les croix de bois de ceux qui voient dans la pandémie une punition de Dieu, les drapeaux arc-en-ciel de quelques ésotériques ou les affiches anti-Merkel de restaurateurs en colère. Dans le Bad Württemberg, d'où est parti le mouvement, les autorités ont décidé de suivre de près les agissements du groupe, comme l'explique Thomas Strobel, le ministre de l'Intérieur du Land.
Les organisations de Querdenker coopèrent avec des acteurs et des groupuscules connus pour recourir à la violence et refusant de reconnaître la République fédérale ou affiliée à l'extrême droite.
D'autres régions pourraient suivre le pas. En Allemagne, on s'inquiète de l'influence grandissante de l'extrême droite, de l'AFD au groupuscule néo-nazi sur les coronasceptiques. L'AFD qui pourrait tenter de récupérer la lassitude d'une partie de l'opinion face aux mesures sanitaires lors des élections de septembre prochain.
L'Union européenne et le Royaume-Uni vont-ils trouver un accord d'ici demain soir? Les négociations sur leurs futures relations commerciales touchent à leur fin. Bruxelles veut éviter un départ du Royaume-Uni et de l'UE sans accord, mais les deux parties sont obligées de regarder la réalité en face. Le no deal est une perspective de plus en plus crédible. Chacun s'y prépare. De son côté, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a passé la semaine à expliquer que ce ne serait pas si grave avant de se faire recadrer, Marie-Pierre Véraud.
Dans la dernière ligne droite, le poker s'intensifie et chaque jour, Boris Johnson y a été de sa petite phrase et de sa vidéo. Mardi, depuis un centre de vaccination Covid, il estime qu'un accord commercial sera très difficile. Le lendemain, aux communes, le voilà qui tonne contre les conditions inacceptables posées par l'Union européenne. Jeudi, il estime très forte la possibilité d'un no deal, ajoutant
« We need to be very, very clear. There's now a strong possibility.
Soyons clairs, il y a une très très forte probabilité pour que nous ayons un accord plus à l'australienne qu'à la canadienne. Cela ne veut pas dire que ce soit une mauvaise chose.
Cela reste à voir. La phrase est arrivée aux oreilles de l'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull et son conseil à Boris Johnson, ne regarde pas vers chez nous. Tu te rendrais compte, ajoute-t-il, que c'est très décevant. Notre accord avec l'Union européenne est basé sur les règles de l'OMC, ce qui freine nos échanges commerciaux. Fais attention à ce que tu souhaites. La relation de l'Australie avec l'Europe, d'un point de vue commercial, je ne vous la souhaite vraiment pas. Accord à la canadienne, pas d'accord, ou accord à l'européenne. Tout reste ouvert et les petites phrases vont sans doute continuer à égayer le week-end.
Rappelons que les négociateurs bloquent sur trois sujets, la pêche, le règlement des différends et les garanties exigées de Londres par l'UE en matière de concurrence.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, le Royaume-Uni, la France et les Nations Unies organisent un sommet virtuel sur le réchauffement climatique aujourd'hui.
Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement seront réunis par visioconférence cet après-midi, 5 ans après l'accord de Paris et alors que les catastrophes climatiques s'enchaînent. En 2015, la quasi-totalité de la planète s'était engagée à contenir le réchauffement nettement au-dessous de 2 degrés, si possible 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Mathieu Orphelin, aujourd'hui député, était à l'époque le porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot et il se souvient au micro de Véronique Rebérotte.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Beaucoup d'émotions en repensant à ce moment-là. Ça a été des longues minutes d'applaudissements, mais voilà à quel moment les négociateurs qui s'enlacent et Laurent Fabius... Laurent Fabius qui a parfaitement joué le coup parce que il y avait un pays qui était pas tout à fait d'accord pour le consensus, pas d'accord du tout d'ailleurs pour le consensus qui était le Nicaragua. La négociatrice du Nicaragua avait été pendant toute la COP d'ailleurs très très dure. Et je crois bien me rappeler qu'à ce moment-là, elle levait la main pour dire qu'elle ne voulait pas de ce consensus. Et d'ailleurs, on a eu ces longues minutes d'applaudissements et après, il a passé la parole à tout le monde d'ailleurs ce soir-là, mais y compris à la négociatrice du Nicaragua qui l'a dit le moment venu, mais des heures après, qu'elle n'était pas favorable à ce consensus. Mais voilà, une fois que ça avait été annoncé, acclamé, le monde entier regardait à ce moment-là. Et voilà, il a très bien joué. Mais quand on regarde à nouveau la vidéo, on voit que quand il dit « je regarde la salle », il ne la regarde pas longtemps et c'est très bref, très bien joué. Parce que voilà, un accord dont on connaît toutes les limites, mais qu'à compter. Parce que ce qui se jouait à ce moment-là, il y a 5 ans, c'est est-ce que la mobilisation internationale, elle continue ou est-ce qu'elle s'arrête? Et on est vraiment passé à 2 doigts du désastre et du non-accord de Paris.
Et aujourd'hui, les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu, regrette le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Vous êtes ministre de la Transition écologique. À quoi sert ce sommet organisé aujourd'hui? Est-ce que c'est pour retrouver cet élan d'il y a 5 ans?
Oui, on peut dire ça. C'est cet élan d'il y a 5 ans, et Mathieu Orphelin vient de le rappeler, ça a été un moment extrêmement fort, émouvant, mais aussi vraiment un point de départ d'une mobilisation internationale sur la décarbonation finalement de l'économie. Et même si, évidemment, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on devrait faire, il y a quand même eu un basculement à ce moment-là, et ce basculement, on peut s'appuyer dessus. Et là, aujourd'hui, on a plein de facteurs qui font que il faut passer à la vitesse supérieure. Et moi, ce que je souhaite lors du sommet qui aura lieu cet après-midi, et ce que j'attends, c'est que justement les contributions des pays fassent l'objet d'annonces ambitieuses qui disent bon bah voilà, on a remis un petit peu sur pied notre économie face à la crise Covid et maintenant on la lance dans l'avenir.
Merci Barbara Pompili, vous serez l'invitée de Chloé Cambrelin dans les matins du samedi, juste après ce journal. J'ajoute que c'est un week-end spécial océan sur France Culture à l'occasion de ce sommet sur le climat. Tout le programme est sur notre site franceculture.fr. Un peu plus de 13 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France. On est loin de la barre des 5 000 cas visés par le gouvernement pour assouplir les mesures de restriction. Selon Santé publique France, le nombre de patients en réanimation baisse légèrement, mais il faudra redoubler de vigilance pendant les fêtes de fin d'année, a rappelé hier Emmanuel Macron. Jeudi, c'est le chef du gouvernement, Jean Castex, qui a fait un point sur la situation et les prochaines étapes du déconfinement. Il a annoncé 3 semaines de fermeture de plus pour les cinémas, musées, salles de spectacle. Pas d'ouverture possible donc le 15 décembre, pas avant au moins début janvier. De nombreux artistes ont l'impression d'être les sacrifiés de la crise sanitaire. Charles Berling, acteur et directeur de la scène nationale Château-Vallon-Liberté à Toulon, prépare un recours en référé Liberté. Il espère ainsi obtenir la réouverture des salles au plus vite. Un recours en justice soutenu par de nombreux professionnels. Charles Berling déplore une décision injuste du gouvernement.
Ça fait presque 1 an maintenant que c'est une profession, c'est une filière pour qui c'est extrêmement difficile d'être dans cette situation. Il y a toutes sortes d'artistes, il y a toutes sortes d'intermittents, de gens qui sont liés comme ça au spectacle vivant, mais il y en a qui crèvent vraiment, qui n'ont plus rien depuis 10 mois. Et des gens qui sont de grande valeur. Il faut comprendre que c'est un désastre. C'est une société consumériste qui est de plus en plus dure avec les artistes. Donc c'est terrible. Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi on rouvre les cultes? Pourquoi est-ce que... Alors j'ai des collègues qui me disent on va aller jouer dans les églises, puisque c'est autorisé là d'avoir du public. On va aller jouer dans les grands centres commerciaux et dans les églises. Et les mosquées, et les synagogues, peut-être c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est quand même aberrant, quoi.
Vous connaissez des gens qui ont jeté l'éponge?
Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, ils vendent leur maison, ils ont 35 ans, ils sont des magnifiques chanteurs d'opéra, ils sont chez leurs parents. C'est terrible, il y a des grands artistes que je vois déprimés parce qu'ils sont non essentiels, parce que tout d'un coup, tout ce qu'ils ont fait, leur carrière ne vaut plus rien. Ça ne vaut rien, en fait. Ah, c'est ça, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, non, l'art ne vaut rien.
Charles Berling, il répondait à Claire Flochel. Hier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a affirmé qu'elle avait demandé 35 millions d'euros supplémentaires au Premier ministre pour les cinémas, théâtres, lieux de concert, opéras. Je sais que je les obtiendrai, a-t-elle assuré. Cette année, depuis le premier confinement, les institutions culturelles ont renforcé leur présence sur les réseaux sociaux. Les musées français sont par exemple de plus en plus présents sur TikTok. Tendance éphémère ou nouveaux modes de consommation, c'est un article approfondi à lire sur franceculture.fr, rubrique actualité. Le temps ce samedi sera pluvieux presque partout, sec et ensoleillé sur la côte méditerranéenne. Météo France prévoit au maximum 7 degrés à Mulhouse, 9 à Dunkerque et Lyon, 10 à Paris, 12 degrés à Bordeaux et Nice. Enfin, prudence dans le sud-ouest, 4 départements sont toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. 8h.